Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration de l'actualité brûlante du jeu vidéo. Aujourd'hui, on se penche sur une compile de news et d'analyses, The Moroccan Gamers Hub. Ça nous donne un panorama assez riche, franchement. Au menu, l'avenir économique de l'industrie, on va en parler. Il y a aussi des remous dans le monde du streaming et bien sûr, les nouveautés qui agitent nos jeux préférés. L'objectif, il est simple. Essayer d'extraire l'essentiel de tout ça, de comprendre un peu les dynamiques, les points de tension, et puis ce qui façonne le paysage du jeu vidéo en ce moment. Prêt? Allez, c'est parti, on décortique. On commence avec une sortie assez remarquée, on peut dire, d'une figure connue de l'industrie, Sean Lydon, l'ancien boss des studios PlayStation.
Ah oui, Lydon.
Ouais. Et il y va pas par quatre chemins en parlant de la course aux jeux live service. Vous savez, ces jeux faits pour durer des années, avec des mises à jour tout le temps. Il dit que cette tendance est un mirage. C'est fort comme mot, non?
Oui, c'est une prise de position intéressante, surtout venant de lui. Ce qui est frappant, je trouve, c'est qu'il met le doigt sur une tension fondamentale. D'un côté, il y a l'attrait financier qui est énorme, des succès comme Fortnite, Apex Legends, ça génère des revenus en continu. Et de l'autre, la réalité du marché. Très très peu de jeux arrivent à ce niveau-là. Lydon, en gros, il suggère que cette focalisation, presque cette obsession pour le modèle live service, ça peut étouffer la créativité, l'innovation aussi.
Il y aurait une sorte de risque systémique, alors. Continuer à vouloir faire du Fortnite à tout prix, même si les chances sont minces.
C'est exactement ça. Et il souligne bien le contraste avec les succès critiques et commerciaux aussi qu'il a lui-même supervisé chez Sony. Je pense à God of War, Horizon Zero Dawn, des jeux solo avec une narration forte. C'est un autre modèle, quoi. Peut-être moins basé sur la monétisation à long terme, mais plus sur une expérience finie, marquante. Et cette pression pour les live services, ça pousse les studios vers un cycle de développement qui est potentiellement insoutenable. Les équipes sont sous pression constante pour livrer du contenu, ça peut mener à l'épuisement et même nuire à la qualité au final.
C'est un vrai débat, en fait.
Ah oui, c'est un débat crucial sur la direction que prend l'industrie AAA. Carrément.
Et cette tension entre l'économie et l'innovation, on la retrouve aussi avec les nouvelles technologies, j'imagine. L'intelligence artificielle générative, par exemple. Comment ça s'applique concrètement dans le développement? Il y a une info récente sur Halo, il me semble.
Oui, tout à fait. Une source interne à l'industrie a apporté des clarifications importantes. Pour l'instant, Xbox Game Studios, donc, qui gère le développement de Halo, n'aurait pas l'intention d'utiliser l'IA générative. C'est-à-dire ces IA qui peuvent créer du contenu, des images, du texte, même des bouts de jeu. Ils ne l'utiliseraient pas pour le développement actif du prochain Halo, ni pour d'autres gros titres.
Ah bon? Quelle est la logique derrière ça? Parce qu'on imagine bien le potentiel pour accélérer certaines tâches, non?
Oui, c'est sûr. Et la raison principale qu'ils donnent, c'est la volonté de préserver ce qu'ils appellent l'intégrité et l'authenticité de l'expérience Halo. En gros, ils préfèrent s'en tenir aux méthodes de développement plus traditionnelles, celles qui ont fait leurs preuves et l'identité de la série.
D'accord.
Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils ferment complètement la porte à l'IA. La source précise bien qu'elle pourrait être utilisée pour des tâches, disons, annexes.
Comme quoi, par exemple?
Comme la gestion de projet, l'optimisation des workflows, des trucs qui touchent pas directement au cœur créatif du jeu, quoi.
C'est une position assez prudente, finalement. Et comment c'est perçu par la communauté, ça?
Alors, là, les actions sont partagées. D'un côté, il y a un certain soulagement chez ceux qui craignent un peu une déshumanisation de la création ou une standardisation des jeux, vous savez. Et de l'autre, il y a une curiosité, voire même une impatience, chez ceux qui voient l'IA générative comme un outil potentiellement révolutionnaire pour créer des mondes plus grands, des expériences plus dynamiques.
D'accord, donc c'est vraiment un dossier à suivre.
Ah oui, clairement. La position des studios pourrait changer très vite avec l'évolution de la technologie.
On change complètement de registre maintenant, pour aborder un sujet plus grave, plus complexe, qui secoue pas mal la sphère du streaming. De nouvelles accusations assez sérieuses ont été portées contre le streamer Mizkif, Mathieu Rinado, de son vrai nom.
Oui, en effet, plusieurs femmes ont pris la parole publiquement ces derniers temps. Les accusations sont assez variées, elles couvrent un spectre large. On parle de harcèlement, d'avances jugées déplacées lors d'événements publics ou privés liés au streaming, mais aussi d'allégations d'agressions sexuelles présumées. Et à ça s'ajoute la mention de propos qui ont été tenus par le streamer, qualifié d'insensible, irrespectueux, envers une autre streameuse qui est décédée aujourd'hui.
C'est lourd.
Oui. Et c'est important de rapporter ces allégations avec précision, mais aussi de rappeler qu'il s'agit à ce stade d'accusation. Faut rester prudent.
Bien sûr. Ce n'est malheureusement pas la première fois que ce genre d'affaires touche ce milieu. Qu'est-ce que celle-ci révèle de particulier? Ou qu'est-ce qu'elle confirme, peut-être?
Elle remet douloureusement en lumière des problèmes récurrents et profonds dans l'écosystème du jeu vidéo et surtout du streaming. On retrouve les questions de dynamique de pouvoir, souvent très déséquilibrées, hein, entre les streamers établis et puis les personnes moins connues ou en début de carrière. Ça soulève aussi des questions sur l'efficacité de la supervision par les plateformes comme Twitch, et ça expose la vulnérabilité de certains individus dans un environnement qui est hyper compétitif, très médiatisé, où les limites entre pro et perso sont parfois un peu floues.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, plusieurs streameuses ont saisi cette occasion pour témoigner à nouveau des difficultés, des comportements toxiques qu'elles rencontrent.
Et la réaction de Twitch, la plateforme principale face à tout ça?
Alors, Twitch a communiqué officiellement. Ils réaffirment leur engagement pour une plateforme sûre et inclusive. L'entreprise insiste sur le fait que tous les signalements sont pris très au sérieux, qu'ils font l'objet d'enquêtes, mais la plateforme reste quand même sous le feu des critiques. Certains observateurs, certains utilisateurs trouvent que l'application de leurs propres règles manque parfois de cohérence, de transparence et de rapidité aussi. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire que les victimes présumées ne trouvent pas toujours un soutien suffisant ou des réponses claires sur les mesures qui sont prises.
Donc, au-delà du cas de Mizkif lui-même, c'est toute la question de la responsabilité qui est posée, en fait.
Exactement. Ça relance forcément le débat sur la responsabilité des créateurs de contenu qui ont une audience énorme, une influence considérable, et plus largement sur les mesures que les plateformes doivent mettre en œuvre au-delà des belles déclarations d'intention pour assurer concrètement la sécurité, le bien-être au sein de ces communautés qu'elles hébergent et dont elles tirent profit aussi.
C'est un enjeu majeur, c'est clair.
Ah oui, pour la crédibilité et la pérennité de tout cet écosystème.
Merci pour ces éclaircissements sur ce sujet difficile. Passons maintenant à des nouvelles plus légères. Ouf! Du côté des jeux eux-mêmes et Fortnite, toujours Fortnite, qui continue de faire parler avec ses collaborations improbables. Après les super-héros, les chanteurs, voilà que Bart Simpson débarque.
Ah oui, c'est le genre d'annonce qui fait toujours réagir ça. Epic Games a officialisé l'arrivée de Bart Simpson. Ce sera un skin achetable dans la boutique.
Bart Simpson dans Fortnite. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à le voir courir sur l'île avec son skate?
Alors c'est prévu pour la prochaine mini-saison. Elle démarre juste après la fin du chapitre 6, saison 4, qui est prévu pour le 1er novembre. On nous promet le look classique, hein, t-shirt rouge, short bleu, mais aussi des émotes animées qui devraient reprendre ses mimiques cultes.
Ah, j'imagine déjà.
Et bien sûr, des défis spéciaux pour marquer le coup. Cette arrivée, elle coïncide aussi avec la fin de la mini-saison actuelle, Shock and Awesome. Et il y a pas mal de rumeurs sur des changements importants à venir sur la carte. Des nouveaux PNJ, les personnages non joueurs, des points d'intérêt modifiés.
C'est fou cette capacité de Fortnite à devenir une sorte de carrefour de la pop culture. Intégrer les Simpsons, c'est encore une autre dimension, non?
Ah mais complètement. C'est la confirmation de cette stratégie de crossovers à très grande échelle. C'est devenu la marque de fabrique de Fortnite et c'est un moteur essentiel de son succès qui dure. Intégrer une icône aussi universelle, aussi transgénérationnelle que Bart Simpson, ça va bien au-delà de juste faire plaisir aux joueurs actuels.
Oui, c'est sûr.
C'est un coup marketing génial pour attirer potentiellement d'anciens joueurs qui reviendraient par curiosité, et même pour séduire des nouveaux qui connaissent les Simpsons, mais pas forcément Fortnite.
C'est malin.
Dans le marché ultra concurrentiel du free-to-play, c'est un moyen redoutablement efficace de rester pertinent, de faire parler de soi et de maintenir l'engagement sur la durée. C'est fort.
Restons dans les jeux mobiles et la réalité augmentée avec Pokémon Go. Le mois de novembre s'annonce chargé, là aussi, avec un événement qui s'appelle Récit de transformation. Qu'est-ce qui le rend spécial, cet événement?
Alors, l'élément phare de cet événement, c'est le retour d'un objet très, très prisé par la communauté, le Loki Trinket. On peut traduire ça par jetons chanceux. Oui, ce sera la récompense ultime pour ceux qui finissent le Go Pass Deluxe de novembre.
Un jeton chanceux, qu'est-ce que ça apporte exactement dans le jeu? Ça fait quoi?
C'est un objet assez puissant. En fait, son avantage principal, c'est d'augmenter significativement les chances de réussir une capture quand on lance une Pokéball. Mais surtout, et c'est ça qui intéresse beaucoup de monde, il augmente aussi les probabilités de rencontrer un Pokémon Shiny.
Ah oui, les fameuses versions alternatives avec des couleurs différentes.
Exactement. Exactement. Très recherché par les collectionneurs. Donc c'est un double bonus qui est très appréciable.
Et comment on met la main dessus? J'imagine que c'est pas si simple.
Non, non, faut de l'investissement. Pour obtenir ce jeton chanceux, les dresseurs doivent atteindre le rang 100 du Go Pass Deluxe.
Rang 100? Ah oui, quand même.
Ouais. Ça demande de jouer régulièrement, de faire les défis quotidiens, hebdomadaires, tout le mois. C'est un objectif qui demande du temps et potentiellement de l'argent pour ceux qui achètent la version payante du pass, bien sûr. Et une fois ce rang 100 atteint, en plus du jeton, ils auront aussi accès à un combat spécial contre le Pokémon légendaire Virizion qui est lié à l'événement.
D'accord. C'est la mécanique classique de la récompense au mérite, quoi.
C'est ça. Ça fonctionne bien pour fidéliser et motiver les joueurs les plus actifs.
On quitte le mobile pour les consoles avec des nouvelles de Final Fantasy VII Rebirth. On sait qu'il est prévu sur la future console de Nintendo, la fameuse Switch 2, et pas mal de joueurs se demandaient si le jeu tournerait bien sur une machine hybride après la version PS5 qui est quand même gourmande. Square Enix a entendu ces inquiétudes, apparemment.
Oui, tout à fait. Et ils ont tenu à rassurer. Square Enix a communiqué officiellement pour confirmer qu'ils travaillent vraiment main dans la main avec Nintendo. L'objectif qu'ils affichent, c'est que la version Switch 2 de Rebirth soit non seulement techniquement soluble, mais qu'elle atteigne au moins le niveau de qualité du premier remake, Final Fantasy VII Remake, voire même qu'elle le dépasse sur certains points grâce aux capacités de la nouvelle console.
Ah, intéressant. Et concrètement, sur quoi ils travaillent pour l'optimisation de cette version Switch 2?
L'accent est mis très fort sur l'expérience en mode portable. C'est crucial pour une console Nintendo, évidemment.
Logique.
Il mentionne spécifiquement des améliorations graphiques adaptées, la réduction des temps de chargement, ça c'est souvent un point sensible sur Switch, et puis garantir un gameplay fluide et réactif. On peut imaginer qu'ils utiliseront des techniques comme la résolution dynamique pour maintenir la performance. Il parle aussi de contrôles adaptés au Joy-Con, à la manette Pro, et même d'une optimisation de la gestion de la batterie.
C'est un enjeu important pour les deux, pour Nintendo et pour Square Enix, j'imagine.
Ah oui, tout à fait. Pour Nintendo, c'est essentiel de montrer que sa future console peut accueillir des gros jeux AAA ambitieux sans trop de compromis, surtout en mode nomade. Et pour Square Enix, il s'agit de répondre aux attentes très élevées des fans de Final Fantasy qui ont une console Nintendo, et puis de capitaliser sur le succès énorme des deux premiers volets de cette trilogie de remake. C'est clairement un portage stratégique.
On retourne dans le monde du PC et des MMO avec World of Warcraft. L'événement Légion Remix, qui permet de revivre l'extension Légion d'une autre manière, a révélé un haut fait secret au nom assez mystérieux, Maître du Fini dans l'Infini. Qu'est-ce que ça cache, ça?
Ah oui, c'est un titre de haut fait assez, poétique et paradoxal. Et il est à la hauteur de son nom en termes de difficulté, je peux vous le dire. Il y a deux façons de l'obtenir, et les deux sont réservées aux joueurs les plus acharnés de ce mode Remix. La première méthode, c'est d'atteindre le plafond de la stat principale de l'événement, la puissance infinie. C'est une stat qui monte via une cape légendaire qu'on améliore sans cesse. Et ce plafond, qui s'appelle Limits Unbound, limite illimitée, il est fixé à 999 points.
Ah ah, donc l'infini a une fin en quelque sorte.
Exactement, d'où le nom du haut fait, maître du fini dans l'infini.
Malin.
Et la deuxième méthode est encore plus dure. Il faut réussir un donjon en mode Mythique Plus, le contenu PvE le plus exigeant du jeu, avec une clé de niveau 49 ou plus. C'est un défi extrême.
D'accord.
Qui avait l'air sans limite au début, est en fait capé à 999.
Et comment la communauté a réagi à ça? Ça a plu ou pas?
Ça a suscité pas mal de discussions. Certains joueurs apprécient qu'il y ait une limite, même si elle est très haute. Ça donne un objectif concret, même s'il est quasi inatteignable pour le commun des mortels, et ça évite peut-être des déséquilibres trop forts. D'autres sont un peu déçus, ils auraient aimé que le concept de puissance infinie soit pris au pied de la lettre pour voir jusqu'où c'était possible d'aller.
Je comprends.
C'est un exemple typique de choix de game design pour gérer la progression à très très haut niveau et offrir un challenge de prestige ultime tout en contrôlant la courbe de puissance.
Très intéressant. Pour finir ce tour d'horizon, on passe rapidement sur quelques autres nouvelles marquantes. Peut-être en sélectionner une ou deux pour en dire un mot.
Oui, on peut parler par exemple de Magic, The Gathering Arena, la carte Vivi Ornithier, qui vient du récent crossover avec Final Fantasy, qui a super bien marché.
Ah oui ?
Elle vient de subir un nerf, c'est-à-dire qu'on a réduit sa puissance parce qu'elle était jugée trop forte. Il est même question qu'elle soit interdite dans certains formats de jeu dès le 10 novembre.
Ah d'accord, ils réagissent vite ?
Oui, ça montre la réactivité des développeurs pour garder l'équilibre du jeu, même avec des cartes qui viennent de collaborations externes. D'ailleurs, les ventes globales de Magic se portent très, très bien. Et ces crossovers Univers 16 Beyond, comme celui avec Final Fantasy, y contribuent beaucoup, apparemment.
Et autre chose peut-être, une sortie importante?
Oui, on peut mentionner la sortie de The Outer Worlds 2, le RPG spatial très attendu d'Obsidian, le studio connu pour son humour, ses choix narratifs.
Oui, le premier était génial.
Exactement. Il est dispo depuis le 29 octobre, et la bonne nouvelle pour beaucoup de monde, c'est qu'il est inclus dès le premier jour dans l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate.
Ah, ça c'est top pour les abonnés yé.
C'est un exemple de plus de la stratégie de Microsoft pour enrichir son catalogue et attirer des abonnés avec des sorties majeures Day One. C'est très agressif.
Sur la pré-mise à jour de World of Warcraft, Midnight, qui arriverait avant fin janvier avec le housing, et une nouvelle spé pour Chasseur de démons. Et puis, la sortie d'un nouveau jeu Astérix et Obélix, Mission Babylone, le 10 octobre. Bon, bah ça fait beaucoup d'infos tout ça. On a parlé économie, technologie, communauté et bien sûr, beaucoup de jeux. Si on devait synthétiser un peu, quel est le grand tableau qui se dessine en ce moment ?
Ce qui me frappe toujours, c'est cette tension permanente dans l'industrie. D'un côté, il y a cette quête incessante du prochain mastodonte financier, le jeu live service qui va capter l'attention et les dépenses de millions de joueurs pendant des années. Une espèce de course à l'heure numérique, quoi. Et de l'autre côté, on sent une aspiration qui grandit autant chez certains créateurs que chez une partie des joueurs pour des expériences peut-être différentes, plus narratives, plus finies, plus diversifiées aussi. Et en parallèle de ça, la question de la responsabilité éthique des plateformes, des créateurs, elle devient de plus en plus centrale, surtout face aux enjeux de sécurité, de toxicité en ligne. On en a parlé.
C'est un équilibre difficile à trouver pour l'industrie et peut-être aussi pour les joueurs au final.
C'est une excellente question, ça. Pour nous, les passionnés de jeux vidéo, comment on navigue dans ce flot constant ? Comment on fait la part des choses entre l'envie, qui est légitime, de participer aux grands phénomènes culturels du moment, comme un crossover Fortnite, et le besoin de trouver des expériences qui résonnent plus profondément avec nos goûts personnels, nos valeurs, ou juste notre temps disponible, hein ?
C'est vrai.
Face à cette surabondance de choix, de sollicitations, définir sa propre diète vidéoludique, ça devient presque un enjeu en soi, j'ai l'impression.
Une réflexion intéressante pour conclure. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec nous aujourd'hui.
Avec plaisir.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.